Eh bien, bonsoir à tous. Donc, bienvenue à l'Institut d'Astrophysique de Paris. Bienvenue aux personnes qui nous font plaisir d'être avec nous à l'IAP et aux personnes qui nous suivent en direct sur YouTube, en direct et en différé. Donc, ceux qui nous écoutent dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on vous salue, voilà, depuis le 1er avril 2025. Donc, juste avant de commencer, je vous indique nos prochaines conférences. Le 6 mai prochain, nous aurons une conférence de notre collègue Kumiko Kotera, la nouvelle directrice de cet institut depuis quelques mois. Elle nous présentera une conférence intitulée « L'univers violent » autour du livre qu'elle vient de sortir. Et elle pourra dédicacer quelques livres à la fin de sa conférence. Donc sa conférence sera intitulée « L'univers violent ». Le sous-titre de son livre, c'est « Trou noir, supernova, pulsar ». Donc les réservations, c'est à partir de demain matin sur notre site web. Et le mardi 3 juin, donc la dernière conférence de la saison, sera de nouveau par une collègue de l'IAP, Céline Gouin, qui est une jeune chercheuse qui a été recrutée il y a peu de temps comme chercheuse ici à l'Institut d'Astrophysique de Paris. Et elle nous parlera de galaxies, d'amas de galaxies, de choses comme ça. Et après la trêve estivale, nous aurons le plaisir de nous retrouver dans notre amphi, qui sera magnifique, rénové, où on pourra être plus nombreux encore que dans cette salle. Donc on sera content d'accueillir encore plus de personnes, d'auditeurs et d'auditrices pour nos conférences. Et donc nous recevrons de nouveau un collègue de l'IAP, Frédéric Denne, qui nous présentera les premiers résultats de la mission spatiale SVOM qui étudie les sursauts gamma, donc là aussi de l'univers violent. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Corentin Cadieux. Donc Corentin, tu es toi aussi un jeune chercheur de l'IAP, puisque donc tu es ici comme chercheur, tu commences ton troisième mois, voilà. Mais bon, on te connaît bien ici, tu connais bien la maison, parce que tu as préparé ta thèse et tu l'as soutenue en 2019, ici même, donc dans l'amphi, tu l'as soutenue. Pour le coup, il n'était pas encore fermé en travaux. Donc, entre les deux, tu as travaillé en Angleterre, en Suède, et donc tes spécialités, c'est la physique des grandes structures, les galaxies, les amas de galaxies, même encore au-delà, notamment par le biais de simulations. Et donc, c'est ce dont tu vas nous parler ce soir, avec une conférence intitulée « Comprendre l'émergence des propriétés des galaxies grâce aux simulations numériques ». Donc je te laisse la parole, et juste avant, à la fin, donc, vous aurez la parole dans le public et puis sur YouTube, sur le chat, pour faire des commentaires, poser des questions, et puis j'essaierai de te les retranscrire. Voilà. Je t'en prie.
Merci. Malheureusement, j'ai pas d'amphithéâtre, j'ai pas non plus d'univers violent, j'ai pas de livre à dédicacer, par contre j'ai des jolies images. Et du coup, aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler justement de comment est-ce qu'on obtient ce genre d'image. Alors j'ai entendu dans l'assemblée tout à l'heure des gens qui mentionnaient le titre JWST. Ce n'est pas une image de JWST, c'est en fait une image d'une galaxie simulée. Et donc tout le but de cette conférence, c'est de vous expliquer comment est-ce qu'on va réussir à faire des galaxies qui sont tellement jolies et tellement bien simulées que parfois nos collègues qui font les observations s'y trompent un petit peu. Ce qui me fait bien plaisir, parce que c'est mon dada. Très bien. Mais du coup, avant de se lancer... J'ai un petit peu tiré déjà sur les gens qui font des observations, mais bon, il faut quand même admettre qu'ils ont de la chance, ils observent l'univers. L'univers, c'est quand même quelque chose de plutôt magnifique. Si on pointe un télescope dans une direction quelconque de l'espace, ce qu'on obtient, c'est des images comme par exemple celle-ci, qui ont été prises cette fois-ci par le télescope James Webb Space Telescope, et où en fait on voit une myriade de petits objets, ils paraissent petits évidemment, parce qu'ils sont loin, avec des couleurs différentes, avec des morphologies différentes, et puis certains qui sont résolus, d'autres qui ne le sont pas. Pour ceux qui sont un petit peu plus proches, on peut en fait faire des images de meilleure résolution. Et on obtient des clichés absolument magnifiques, comme par exemple ici la galaxie du Sombrero, qui est une galaxie vue du côté. Donc on voit qu'il y a des galaxies qui sont un petit peu aplaties, avec des petites structures noires. Donc il s'agit de comprendre qu'est-ce que sont ces structures noires, pourquoi est-ce qu'on a des choses aplaties. Après on a des galaxies absolument magnifiques, comme par exemple ici la galaxie Messier 83, avec des zones qui sont un petit peu plus rouges, des zones qui sont un petit peu plus bleues. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on est en train d'observer ? On a d'autres galaxies, cette fois-ci beaucoup moins massives, beaucoup plus proches. Donc c'est les nuages de Magellan. Pour ceux qui sont derrière, je vais lire ce qu'il y a écrit, parce que j'ai l'impression que c'est un peu petit. Donc croyez-moi, il y a écrit nuages de Magellan, qui sont donc des petites galaxies qui sont autour de la Voie lactée, et qui ressemblent en fait à s'y méprendre à des nuages. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans l'hémisphère sud. C'est assez joli de les voir, mais c'est pas très impressionnant parce que c'est juste un petit nuage qui flotte. Donc quand on sait ce que c'est impressionnant, quand on sait pas ce que c'est juste un petit nuage qui flotte. Et après, il y a d'autres galaxies aussi, comme par exemple la galaxie dite du pingouin, c'est un peu ma galaxie préférée, qui est en fait un triplet de galaxies, avec deux qui sont en avant-plan ici, une qui est en train d'interagir avec l'autre, et on voit qu'elle est en train de se faire déformer. Donc la galaxie jaune est en train de déformer le pauvre petit pingouin qui est à côté. Et donc la question, c'est en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Parce qu'évidemment, ces clichés, si on les avait pris il y a un million d'années, en fait, on aurait eu la même chose, parce qu'une galaxie, ça évolue extrêmement lentement. Donc on se pose la question de comment est-ce que les choses évoluent, étant donné qu'on ne peut pas observer une galaxie évoluer. De la même manière, c'est représenté en 2D sur cette projection. Mais malheureusement, quand on prend une image d'une galaxie, elle est aussi en 2D. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas du tout quel est le volume qui est derrière. Est-ce que ce truc du sombrero, c'est en fait un cigare qu'on voit du côté? Au contraire, est-ce que c'est un beau disque bien régulier? Ces nuages de Magellan, est-ce que c'est juste vraiment des nuages ou est-ce qu'ils sont un petit peu aplatis? Est-ce qu'ils sont élongés dans la direction transverse? Ça, c'est des questions qui sont extrêmement difficiles à répondre via les observations, et c'est justement le but des simulations d'essayer de reproduire la diversité de ces galaxies pour ensuite être capable de les voir évoluer, de comprendre comment elles évoluent, et aussi de voir quelle est leur structure tridimensionnelle. Mais avant de me lancer dans le vif du sujet, j'aimerais bien faire un petit retour... j'ai oublié un type de galaxie. On a un peu tendance à les oublier, parce qu'en fait, c'est les galaxies elliptiques, et comme vous pouvez constater, c'est des galaxies qui ne sont pas... Il y en a qui sont un petit peu plus jolies sur les clichés. Les galaxies elliptiques, c'est pas les plus jolies, mais c'est quand même celles qui sont les plus massives dans l'univers et qui regroupent l'essentiel de la masse en étoiles de l'univers. En fait, se situe dans ces galaxies-là qui en fait ressemblent juste à des espèces de boules un petit peu diffuses, mais extrêmement massives. Et donc le but de nos recherches, c'est d'expliquer déjà reproduire cette diversité, puis après être capable d'aller expliquer quelle est son origine. Et donc, comme je disais, petit retour en arrière d'abord. On va revenir 105 ans en arrière, quasiment pas tout à fait jour pour jour, mais pas loin, avec un événement historique en astronomie, qui est ce qu'on appelle le Grand Débat aujourd'hui. Le Grand Débat, c'est une confrontation entre chercheurs, donc ils n'en sont pas arrivés aux mains, mais une confrontation du coup scientifique entre Harlow Shapley d'un côté et Herbert Curtis, qui, à l'époque, avait déjà des observations sur des plaques photographiques de ce qu'ils appelaient à l'époque des nébuleuses, c'est-à-dire des espèces d'objets qui ressemblaient typiquement à les nébuleuses qui sont en arrière-plan. Il me semble que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la galaxie d'Andromède. Et la question à 1 kg de sucre, enfin, je ne sais pas s'ils ont pris 1 kg de sucre, mais enfin, en tout cas, la question qui se posait à l'époque, c'est de savoir est-ce que ces nébuleuses, elles se situent dans la Voie lactée ou au contraire, est-ce que c'est des objets qui sont extrêmement lointains? Et s'ils sont extrêmement lointains et qu'on les voit aussi gros, dans ce cas-là, ils sont aussi extrêmement grands, massifs. Et en fait, c'est une question qui est fondamentale, parce que si c'est des objets qui sont proches, on se doute bien que les mécanismes qui vont former un petit nuage proche de chez nous, ce n'est pas du tout les mêmes que quelque chose qui va générer un énorme nuage de milliers d'années-lumière à des millions d'années-lumière de la Voie lactée. Sauf qu'à l'époque, ils n'avaient pas encore les évidences qu'on a aujourd'hui pour répondre à cette question. Donc de son côté, le point de vue de Shapley, c'est que l'intégralité de l'univers était en fait contenue dans la Voie lactée. C'est-à-dire que la Voie lactée, c'était l'univers. Alors pas forcément avec des bords, mais c'est-à-dire que tout ce qu'on voit en fait se situe dans un petit rayon, petit au sens astronomique évidemment, autour de nous, de quelques milliers d'années-lumière. Et donc que ce qu'on appelle aujourd'hui des galaxies, mais qu'à l'époque ils appelaient des nébuleuses, sont en fait des objets qui sont proches de nous, toujours au sens astronomique, de quelques milliers d'années-lumière. Et bon, c'est pas une explication qui sortait du chapeau, du moins c'était pas une théorie qui sortait du chapeau, parce que en 1916, il y avait par exemple un article de Van Manen qui prétend observer la rotation d'une nébuleuse, la nébuleuse du Moulinet, qui est une très belle galaxie d'ailleurs. Et pour ce faire, ce qu'avait fait Van Manen, c'est qu'il avait pris une photo de cette nébuleuse en 1916 et il l'avait comparée à une photo de 1892 de la même nébuleuse. Et en fait, ce qu'il avait constaté, c'est qu'en essayant de superposer les deux photos, il y avait un petit... C'était pas tout à fait bien superposé. Il a interprété ça comme... c'est parce que cette nébuleuse, elle est en train de tourner. Sauf que si une nébuleuse, elle tourne sur une dizaine d'années, on se doute que du coup, sa taille, ça va être quelque chose qui est relativement petit. Alors que si on avait un objet qui est étendu sur des millions et des millions d'années-lumière, sur des milliers et des milliers d'années-lumière, on s'attendrait à avoir une rotation qui est beaucoup plus lente. Donc ça, ce que ça suggère à Shapley, c'est que cette nébuleuse, en fait, c'est pas un objet qui est très très grand, au contraire, c'est un objet qui est plutôt petit. Et s'il est petit, mais qu'on le voit quand même dans le ciel, c'est qu'il est proche. Il avait aussi un autre élément d'évidence, qui est que il observait, des collègues à lui ont observé une nova, donc c'est-à-dire une étoile nouvelle qui n'était pas là avant. Ils ont pris une nouvelle photo, il y avait une étoile nouvelle dans une nébuleuse. En fait, en comparant la luminosité de cette nova à la nébuleuse, ils se rendaient compte que c'était à peu près la même valeur. Et du coup, ce qui se dit qui est assez naturel à l'époque, c'est puisqu'on a une étoile seule qui émet autant de lumière qu'une nébuleuse totale, on se doute que la nébuleuse ne doit pas contenir beaucoup d'étoiles, et que si elle ne contient pas beaucoup d'étoiles, elle prend un proche aussi, parce que sinon, si elle était extrêmement lointaine et avec pas beaucoup d'étoiles, on ne la verrait pas. Ça, c'est le point de vue de Shapley. De son côté, il y a Curtis. Curtis, lui, il est plutôt adepte d'une théorie qui s'appelle les théories des univers Hill. La théorie des univers Hill, en fait, c'est une théorie qui a d'abord commencé dans le domaine de la philosophie. C'est Emmanuel Kant qui avait postulé l'existence d'univers Hill, où du coup, la Voie lactée serait un univers, la galaxie d'Andromède serait un autre univers, et en fait, toutes les galaxies seraient chacune des petits univers isolés qui interagisseraient finalement assez peu. Là encore, il se base aussi sur quelques éléments. La première, c'est qu'en fait, quand on regarde les novas, donc c'est les étoiles nouvelles dont je parlais tout à l'heure, on se rend compte qu'il y en a plus dans la nébuleuse d'Andromède, en tout cas à l'époque qui était observée, que dans l'intégralité de la Voie lactée. Donc on se dit, pourquoi est-ce qu'il y aurait une région du ciel dans laquelle il y a plein d'étoiles nouvelles qui se forment, et finalement assez peu dans le reste? Et lui, la manière dont il interprète ça, c'est qu'il se dit, s'il y a un endroit où il y a plein d'étoiles qui se forment et un autre où il y en a finalement assez peu, c'est que l'endroit qu'on est en train de regarder, en fait, c'est un cousin de la Voie lactée. Et juste, la galaxie d'Andromède, elle est très lointaine, donc on voit toutes les étoiles presque au même endroit. Alors que quand on regarde dans notre environnement proche, celles qui se forment dans la Voie lactée, il y en a un petit peu partout. Et l'autre élément sur lequel il se base, c'est qu'en fait, on peut mesurer la vitesse à laquelle s'éloignent ou se rapprochent les galaxies. Ce serait un sujet de discussion en soi. En fait, quand on fait ça, on trouve des centaines de kilomètres par seconde, voire même plus. Et ça, c'est supérieur à la vitesse qu'il faut pour sortir de la Voie lactée et jamais retomber dessus. Donc ce serait un petit peu bien tombé qu'on ait des objets qui sont en train de se trimballer dans la Voie lactée, en fait, qui sont juste en train de faire un unique passage et qui ne reviendront jamais. Et le fait qu'on en voit vraiment beaucoup, ça donne l'impression qu'en fait, ces objets ne sont probablement pas en train de passer au travers de la Voie lactée, mais en fait, ils sont loin. Je fais un petit bond dans le temps, tout petit bond, 4 ans, en particulier en tant qu'astronome, 4 ans pour moi c'est vraiment, c'est à peine le temps de se faire recruter. 1924, on a Edwin Hubble, dont vous avez probablement déjà entendu parler, par exemple le Hubble Space Telescope, il est nommé après Edwin Hubble, qui prend une photographie de la galaxie d'Andromède, et je ne sais pas si vous pouvez voir, donc il a annoté toutes les novées avec un petit N. Puis il y en a une, en fait, il se rend compte qu'en faisant plusieurs clichés à la suite des autres, en fait, cette novée, elle change de luminosité. Et du coup, là, il est très excité, et il barre son N et il écrit var comme variable. Et en fait, la raison pour laquelle c'est intéressant, c'est que 10 ans plus tôt, on a une chercheuse qui s'est fait d'ailleurs voler son travail par son mari, ou je ne sais plus si c'est son... Enfin bref, une chercheuse au début du XXe siècle, ce n'était pas une très bonne situation. Toujours est-il que Henrietta Leavitt, elle avait découvert 10 ans plus tôt qu'on avait un certain type d'étoile qui avaient leur luminosité qui fluctuait avec le temps, et que cette luminosité était proportionnelle à... cette période a été proportionnelle à la luminosité. Et ce qui est pas mal, c'est que, en fait, ça nous donne une manière de mesurer des distances de manière absolue dans l'univers. Parce que si un objet est deux fois plus loin, il va être quatre fois moins lumineux, en apparence. Et donc, en fait, en mesurant la période, on a une manière d'aller estimer la luminosité observée, et si on la compare à la luminosité attendue, on peut retrouver la distance. Et donc, ce que fait Hubble sur cette plaque photographique, c'est qu'en fait, il va être capable de faire la première mesure relativement précise de la distance à la galaxie d'Andromède, et il trouve que c'est des millions d'années-lumière. Et des millions d'années-lumière, c'est bien plus grand que ce qu'on pense être la taille de la Voie lactée. Et donc ça scelle le débat une fois pour toutes. Finalement, c'est Curtis qui avait raison, et donc les objets qu'on observe, ces nébuleuses, qui sont un petit peu présentes partout, dont je montrais des photos sur la toute première slide, sont en fait des objets qui sont lointains, qui sont extrêmement massifs et extrêmement gros. Et donc le reste de cette présentation, c'est essayer de vous expliquer d'où ils viennent. Et pour ça, c'est pas une mince affaire, ça prend 40 minutes, mais je vais essayer d'y aller. Donc très bien, comment est-ce qu'on fait pour former une galaxie? En tant que scientifique, une manière qu'on peut avoir de procéder, c'est d'essayer d'écrire les équations qui nous paraissent pertinentes, et après de les résoudre et de voir ce qui sort. Et si ce qui sort ressemble à la réalité, on se dit qu'on ne s'est pas complètement trompé sur toute la ligne. Le problème, c'est que les équations qui régissent la formation des galaxies sont un petit peu compliquées. La première équation qu'on va essayer de résoudre, vous savez que la Terre tourne autour du Soleil. Si maintenant vous ne mettez pas un Soleil, mais vous en mettez 100 milliards, on peut se douter que les 100 milliards de Soleils tournent les uns autour des autres. Le problème, c'est que la solution analytique de la gravitation, quand on a deux corps, elle existe. Quand on a trois corps, elle existe dans certains cas particuliers. Dans le cas de la Voie lactée, il y a a priori 100 milliards d'étoiles. Donc autant dire que la solution n'existe pas. Et donc la première simulation qui a été faite, donc une manière de résoudre ce problème, c'est de faire des simulations, c'est par un Suédois, un certain Erik Holmberg, qui a une idée assez rigolote, qui est que comme la gravitation elle décroît avec le carré de la distance, C'est comme la luminosité, j'en parlais tout à l'heure, qui décroît avec le carré de la distance. Et du coup, en fait, si on place des petites ampoules sur un banc d'essai et qu'on mesure la luminosité qui est exercée par toutes les autres ampoules qui est autour, c'est une manière d'aller simuler la gravitation. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a placé 37 ampoules. Et à chaque pas de temps, il calculait combien de luminosité il recevait de part et d'autre. Et ça, ça donne une estimation de la force gravitationnelle qui s'appliquerait sur les 37 particules qui consisteraient ce système. Et donc on peut donc faire une simulation de cette manière. On déplace un petit peu les ampoules, on recalcule la luminosité, on recalcule l'accélération, on redéplace les particules, etc. de manière itérative. J'ai retrouvé d'ailleurs une petite vidéo qui a été faite par des chercheurs à Lund, où justement on montre un time-lapse de ce processus. C'est extrêmement fastidieux et on se doute quand même qu'on ne va pas le faire pour 100 milliards de... Déjà, ça coûte très cher en ampoule. Avant que vous puissiez voir mon... Donc, ça coûte très cher en ampoule, mais au niveau du cœur de la physique et de la manière dont on va le résoudre, en fait, on fait pareil aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va placer plein de particules, puis on calcule la force gravitationnelle exercée sur chacune des particules par toutes les autres. On utilise ça pour aller estimer l'accélération de cette petite particule et après pour aller mettre à jour sa position. On déplace un petit peu la particule, puis on recommence. Et on fait ça une fois, deux fois, trois fois, et en fait des millions et des millions et des millions et des millions de fois, et ça nous permet d'aller simuler l'interaction gravitationnelle de particules sur un ensemble d'autres. Le deuxième point dont on a besoin pour former des galaxies, c'est d'avoir un univers. Et l'univers est décrit par le domaine qu'on appelle la cosmologie. Il y avait un article ce matin, je ne sais pas si vous arrivez à lire ceux qui sont derrière, comme on est le 1er avril, il y a une tradition de faire des articles un petit peu blagues. Et donc cet article, donc la figure qui est là, est issue d'un article de ce matin, qui propose de renommer les différentes périodes de l'évolution de l'univers d'après des noms d'albums de Taylor Swift. Pour ceux qui écoutent Taylor Swift, vous avez un moyen de comprendre l'univers avec des albums de Taylor Swift. L'image en fait est assez connue, explique bien en fait la manière dont l'univers évolue. Donc on a le temps qui va de la gauche vers la droite, on a le Big Bang à gauche, qui est suivi par une période d'inflation assez phénoménale, après laquelle on a ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, je vais y revenir, qui nous met en fait les conditions initiales pour nos simulations, parce que si on fait une simulation, il faut bien commencer par quelque chose. Et après, on a une évolution, je vais aussi y revenir, où on a notre univers qui va avoir tendance à s'étendre, un petit peu comme la surface d'un ballon de baudruche dans lequel on soufflerait. Donc je parlais de ce fond diffus cosmologique. Le fond diffus cosmologique, en fait, c'est une observation qu'on peut faire avec des télescopes, comme par exemple le télescope Euclide, dont les données ont été analysées ici à l'Institut d'astrophysique de Paris. Et quand on fait ça, on se rend compte qu'en fait, quand on regarde dans le domaine radio l'univers, on observe un rayonnement à 3 Kelvin, 2,7 pour être précis, qui paraît plutôt très uniforme. Ce qu'a fait le télescope Planck, c'est qu'en fait, c'est une mesure extrêmement précise de cette température. En fait, ce qu'on observe quand on fait une mesure très précise du champ de température un peu partout, c'est qu'on n'a pas 2,7 Kelvin exactement, on a 2,7255, plus ou moins 0,00006 Kelvin. C'est-à-dire qu'en fait, on a un rayonnement relique qui date de 13,7 milliards d'années dans le passé, et qui est presque uniformément à 2,7 Kelvin, avec une toute petite fluctuation. Et donc là, ce que je représente, c'est vraiment, on a l'impression que bon, c'est des grosses fluctuations, mais il faut quand même se rendre compte que c'est des fluctuations de température et de densité de l'ordre de 0,02%. C'est-à-dire que la densité et la température dans l'univers il y a 13,7 milliards d'années, c'est essentiellement un électroencéphalogramme plat avec des toutes petites fluctuations. Sauf qu'après, il va se passer quand même des choses assez intéressantes. Et donc ça, c'est pas mal, parce que en fait, on a maintenant une manière, d'avoir des conditions initiales pour mes simulations. Je prends un champ initial qui est presque uniformément uniforme, avec des toutes petites fluctuations. Et je mets ça en entrée de ma simulation dans laquelle je résous la gravitation, et paf, ça fait des chocs à pic. Alors pas tout à fait, parce que en fait, l'état de l'univers à l'époque, c'est essentiellement du gaz. C'est du gaz qui est relativement chaud, c'est en fait un plasma, donc c'est un gaz à plusieurs milliers de degrés Kelvin. Si ça vous intéresse de savoir pourquoi on l'observe à 3, on peut en parler après. Mais donc c'est un gaz qui est ionisé, et essentiellement d'hydrogène et d'hélium. Et donc le problème, c'est que le gaz, vous savez que le gaz, c'est quelque chose qui va se déplacer d'après les équations de l'hydrodynamique. Je vais revenir sur les équations de l'hydrodynamique. L'autre chose que nous apprend la cosmologie, c'est que l'univers est en expansion, je le disais tout à l'heure. Donc on a un espèce de ballon de baudruche à l'intérieur duquel, enfin plutôt à la surface duquel on vivrait, qui est en train de s'enfler au cours du temps. Et cet univers en expansion, c'est-à-dire que en fait, la trame de l'espace-temps va de plus en plus grande. Donc si vous prenez deux points et que vous les regardez au cours du temps, ils vont s'éloigner les uns des autres, malgré le fait qu'aucun des deux n'est en train de se déplacer. Donc on a une augmentation apparente de la distance entre les galaxies. Si on reprend la simulation analogique que j'avais montrée tout à l'heure avec des petites ampoules qui tournaient autour d'elles, c'est comme si à chaque fois qu'on faisait un pas de temps, on séparait un petit peu les ampoules les unes des autres, sans forcément leur rajouter un champ de vitesse particulier, juste on les met un petit peu plus loin les uns des autres. C'est un peu le mode Covid, c'est-à-dire qu'il faut maintenir une distance de sécurité, sauf que la distance de sécurité augmente avec le temps, pour une raison inconnue, mais que l'univers comprend. La manière dont on traite ça dans les simulations, donc on sait qu'on a à peu près 70% de l'énergie de l'univers qui est dark energy, l'énergie sombre qui va pousser en fait l'univers à s'étendre toujours plus et de plus en plus rapidement. En pratique, la manière dont on traite, en faisant fi de toutes les complications, c'est qu'en fait on a une petite boîte de simulation. Ça, c'est une boîte d'une de mes simulations. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est au cours du temps, en fait, la boîte, on va faire grandir. Et essentiellement, l'expansion de l'univers, la manière dont moi je le traite et la manière dont moi je le vois, c'est juste, j'ai un domaine de simulation et mon domaine, il grandit. Et c'est à peu près tout, en fait. On n'a pas besoin de beaucoup plus. Et bon, je vais revenir tout à l'heure sur ce qu'on est en train de voir dans cette boîte. Très bien. Donc, c'est-à-dire que maintenant, on a... Oh, je vais revenir... On a une manière d'aller mettre des conditions initiales dans la simulation, on a une manière d'aller traiter la taille de notre boîte au cours du temps qui est compatible avec ce que nous dit la cosmologie. Il ne reste plus qu'à mettre des choses dans notre boîte. Et la première chose qu'on a envie de mettre, la gravitation, ce n'est pas un objet, on a envie de mettre justement du gaz, dont je parlais tout à l'heure. Là, j'aimerais bien juste faire une petite analogie avec les nuages. C'est un peu ma troisième passion dans la vie, il y a les galaxies, les pingouins, les nuages. Les nuages, de manière complètement intuitive, quand vous regardez cette image, qui est une image d'exposition longue, vous vous doutez bien que, bon, manifestement, il y a du vent qui vient de là, qui va vers le nord-ouest. Ça, en physique, on appelle ça de l'advection. Et en fait, la manière dont nous, on va traiter le déplacement de gaz, donc ici, on a un gaz qui est composé d'air avec un petit peu d'humidité qui font les nuages, la manière dont nous, on va le traiter, c'est qu'en fait, on va découper notre simulation en des petites cases, et dans chacune des cases, on va calculer combien est-ce qu'il y a de nuages et d'air qui passent d'une cellule à la cellule voisine. Et typiquement, si on a du vent qui vient d'en bas à droite et qui va vers en haut à gauche, on va se douter que la matière qui était initialement dans cette petite cellule ici, où est-ce qu'il y a ma curseur ? Dans cette petite cellule, va se retrouver transportée dans la cellule d'à côté. Et donc ça, ce que ça nous dit, c'est qu'en fait, on a une manière itérative d'aller résoudre nos équations. On a une représentation, par exemple, de notre densité de nuages ou, en l'occurrence, de matière dans l'univers. On sait dans quel sens le vent tourne, le vent se déplace, et donc on est capable d'aller calculer à l'étape d'après combien est-ce qu'il y a de gaz dans chacune des cellules. Et là, de la même manière, on fait ça une fois, deux fois, trois fois, et en fait on fait ça des millions de fois, et ça nous permet d'aller résoudre les équations de l'hydrodynamique, donc du déplacement du gaz. L'autre petit astuce qu'on a, c'est qu'en fait on s'autorise aussi à découper notre grille à des endroits qui nous intéressent. Mettons que pour une raison qui m'échappe, il y a quelque chose qui nous intéresse particulièrement à cet endroit-là, en fait, on peut redécouper la grille pour mettre plus de résolution. Et en fait, on peut faire ça encore, encore, encore et encore. Et donc ça nous permet d'aller mettre de la résolution extrêmement bonne dans les endroits où, par exemple, une galaxie va se former. Très bien. Donc dit autrement, là, je vous ai présenté les trois éléments essentiels pour aller former une galaxie. On a besoin de gravitation d'un côté, on a besoin d'hydrodynamique pour aller déplacer le gaz qui était là au début, on a besoin de la cosmologie qui va nous donner... quelles étaient nos conditions initiales, mais aussi comment la boîte va évoluer au cours du temps. Et je ne sais pas ce que c'est cette présentation. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est si maintenant je mets ça dans un code de simulation, qu'est-ce qui se passe ? Donc là, ce qu'on voit, c'est une carte qui représente la densité de gaz dans une des simulations que j'ai effectuées. Je ne sais pas si vous pouvez voir au fond, mais en fait, là, j'ai mis une échelle qui varie avec le temps et qui représente le fait que la taille de ma boîte, elle varie avec le temps. Bon, c'est juste une petite échelle qui est en train de se réduire pour ceux qui sont derrière. On a aussi le temps qui est en bas à gauche. Donc là, par exemple, on a 2 milliards d'années après le Big Bang. Et cette simulation, elle va courir jusqu'à 13 milliards d'années parce qu'elle n'est pas terminée. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est, je vais juste remettre au début, déjà une petite anecdote assez rigolote. Donc déjà, on commence, il n'y a pas grand-chose. Mais surtout, regardez le fait que la simulation, à un moment, va sauter. Donc en fait, là, ce que j'ai fait, c'est une vidéo de ma simulation au cours du temps. Et en fait, il y a un moment où je me suis rendu compte que je m'étais planté. Ce n'était pas centré au bon endroit. Et du coup, ça se recentre un petit peu à un autre endroit. Mais vu que les simulations, elles prennent des mois et des mois à courir, je fais avec. Donc voilà, donc on a une simulation qui saute. Malheureusement, je n'ai pas trop le choix. Et bon, toutes les simulations que je vais vous montrer, on se défaut parce que bon, j'avais pas tout à fait des millions d'heures de calcul pour aller refaire une simulation pour pouvoir la montrer. L'autre point qui est intéressant, c'est que ce qu'on voit déjà, c'est on voit quelque chose qui ressemble un petit peu aux objets que je vous avais montrés tout à l'heure, quelque chose qui ressemble un peu à une spirale. Alors pour le moment, c'est que du gaz, il n'y a pas encore d'étoiles. Mais déjà, ce gaz, on voit qu'il y a plein de petits objets qui lui tombent dessus. On voit aussi un espèce de filament qui vont aller alimenter donc cette galaxie en croissance, enfin qui n'est pas encore tout à fait une galaxie, une proto-galaxie, et aussi qu'on va avoir des événements de fusion majeurs, comme par exemple là, le petit objet qui vient de rentrer dedans, et qui va aller complètement détruire le disque qui est en cours de formation. Le gros avantage de la simulation, c'est que ça, si on avait voulu observer ça dans l'univers, il faudrait attendre typiquement 10 milliards d'années, ce qui est quand même un petit peu long. Ma carrière, elle fait 30 ans, j'espère que quand j'en aurai 65, je serai à la retraite. Donc 10 milliards d'années, ce n'est pas tout à fait faisable. Donc déjà, on a accès à la dimension temporelle auquel on n'avait pas accès dans les observations, mais on a aussi accès à la dimension tridimensionnelle. En l'occurrence, si je prends, je ne sais pas pourquoi la vidéo en arrière-plan s'est remise de zéro, mais si je prends la galaxie à la fin et que je tourne mon point de vue autour, ça me permet d'aller me rendre compte que cet objet que je suis en train de simuler, en fait, c'est vraiment c'est un espèce de frisbee, mais vraiment très très fin. Et c'est ça ce qui est assez intéressant, parce que ça nous dit des choses sur la manière dont l'objet s'est assemblé. Pourquoi est-ce qu'il s'est ratatiné sur une dimension mais pas sur les autres? Donc ça, typiquement, c'est parce qu'il a une rotation, et du coup, par conservation du moment angulaire, c'est typiquement ce qui se passe. Ce qui est aussi intéressant, c'est que là, je représentais juste la densité de gaz, mais évidemment, on suit pas seulement la densité de gaz, mais on suit aussi, par exemple, la température. Et donc ça, ce que ça me dit, c'est qu'en fait, de manière spontanée, juste étant donné la gravitation, l'hydrodynamique, et puis des conditions initiales dans une boîte qui ronfle, on est déjà en train de reproduire des choses qui ressemblent un petit peu à une galaxie, et qui en fait est constituée de gaz dense et froid, si vous regardez à droite. Rouge, c'est chaud, et bleu, c'est froid. Encore une fois, c'est une mesure de température d'astronome, donc froid, c'est quelques milliers de degrés, et chaud, c'est plutôt quelques millions de degrés. Mais en tout cas, pour nous, c'est plutôt chaud et froid. Et ça, ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, du gaz qui va être froid et qui va être dense, il va avoir tendance à vouloir faire des étoiles. C'est-à-dire que là, en fait, on a les graines dans lesquelles on va pouvoir prendre ce gaz et le transformer en étoile, et donc on a les premières graines qui vont nous permettre de vraiment former des galaxies. Donc allons-y gaiement. Donc imaginons qu'on ait un nuage de gaz froid et dense. C'est évidemment une observation que vous voyez ici. Ce n'est pas du tout une image générée par intelligence artificielle. Ce gaz froid et dense, il va donc avoir tendance en fait, à s'effondrer sur son propre poids, et ce faisant, il devient de plus en plus froid et de plus en plus dense, il continue à s'effondrer, etc., etc., etc. Jusqu'au moment où on arrive à une densité qui est tellement importante qu'on commence à initier de la fusion nucléaire. Et quand on commence à initier de la fusion nucléaire, on a formé une étoile. Donc nous, la manière dont on traite ça dans les simulations, c'est qu'on détecte tous les endroits où on a du gaz qui est froid et qui est dense, et on prend une partie de ce gaz et on le transforme en étoile. C'est-à-dire qu'on a pris quelque chose qui était du gaz, et maintenant on l'a transporté et on a créé une particule à partir de ça. Et ça tombe bien parce que je vous expliquais comment on faisait pour déplacer les particules avec la gravitation. L'autre truc qu'on observe, que mes collègues qui font des observations observent, c'est leur boulot, c'est que les étoiles, elles ont une fâcheuse tendance à exploser. Le terme technique, c'est boom. Le terme technique, c'est ce qu'on appelle le feedback, c'est-à-dire la rétroaction. C'est-à-dire qu'on a pris du gaz froid et dense et que maintenant, on est en train de faire exploser une supernova. Et cette supernova, elle va chauffer le gaz et comme elle va le pousser, elle va le rendre moins froid et moins dense. Tout à fait. Donc dit autrement, on a un processus qui va vouloir densifier le gaz et le refroidir, et un processus qui va faire exactement le contraire, et c'est pour ça qu'on appelle ça un phénomène de rétroaction. Ça, on peut le faire dans les simulations, on peut prendre notre gaz, le transformer en étoile, on attend quelques millions d'années, et on fait une petite explosion de supernova. Les supernovas aussi, elles ont le bon goût de créer des éléments, comme par exemple le carbone ou l'oxygène, dont nous sommes plutôt constitués. Et aussi, ce qui me frappe toujours, c'est l'énergie qui est donnée par une supernova est absolument gigantesque. Si on prend toutes les bombes nucléaires qui ont explosé jusque dans les années 90, on peut estimer à peu près la quantité d'énergie qui a été déployée. Donc pour ceux qui sont derrière, la valeur, c'est 2 milliards de milliards de joules, à peu près. Une seule et unique supernova, c'est 10 puissance 44 joules. C'est-à-dire qu'en fait, si on faisait exploser 1 milliard de bombes nucléaires toutes les secondes pendant l'âge de l'univers, on aurait moins d'énergie qu'une seule supernova. Donc c'est vraiment un truc énormissime, mais qui est tellement énorme qu'en fait, ça va être capable d'aller déplacer du gaz et l'éjecter des galaxies. Et ce faisant, en fait, ça va donner un mécanisme pour aller prendre du... Donc on a notre galaxie, et elle va perdre du gaz par le fait qu'elle en a converti une partie qui va ensuite exploser. Bah, du coup, allons-y. Donc, je vous propose un scénario révisé. Donc, pour former des étoiles, on a besoin de gravitation, d'hydrodynamique et cosmologie, je vous l'ai déjà dit. Mais maintenant, on va aussi rajouter des étoiles et le fait qu'elles explosent. Alors, qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Mais d'abord, petit aparté. Voici la première simulation que j'ai effectuée dans laquelle j'ai mis tous ces éléments, mais j'ai fait une petite erreur, c'est que je me suis trompé d'un facteur 10 sur la quantité d'énergie qui est déployée par une supernovae. Et je vais juste remettre au début. Donc au début, c'est une simulation de faible résolution, on a une galaxie disque vue du côté, et tous les petits poufs que vous voyez, en fait, c'est une supernova qui explose. Et en fait, comme j'injecte tellement d'énergie, qu'en fait le gaz de la galaxie, qui est représenté ici avec des différentes couleurs de mauve, se retrouve complètement éjecté. Au bout de cette simulation, elle a tourné pendant 6 millions d'années. Au bout de 6 millions d'années, je me suis quand même rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas tout à fait. Parce que j'avais du gaz qui allait plus vite que la vitesse de la lumière. Enfin bon, c'était n'importe quoi. Mais toujours est-il que voilà ce que peut faire une supernova dans une galaxie. En l'occurrence, si on a une toute petite galaxie dans laquelle explose une supernova, potentiellement on perd tout le gaz qu'il y a dans la galaxie. Donc là, en l'occurrence, c'était un scénario qui n'était pas physique, mais qui est assez représentatif de ce qui se passe quand une supernova explose. C'est que vraiment, je la remets parce que moi, je trouve ça toujours fou. Ça fait littéralement des trous. C'est-à-dire qu'on a du gaz et en fait, ça explose et du coup, ça repousse tout et il y a littéralement un trou après. Et ça, c'est assez important parce que du coup, c'est-à-dire que si on a creusé les trous dans la galaxie, on ne peut plus faire d'étoiles après. Donc on a une manière d'aller faire une rétroaction sur la quantité d'étoiles qu'on forme dans nos galaxies et du coup, de réguler la formation des étoiles dans les galaxies. Donc 8 ans plus tard, j'ai heureusement appris de mes erreurs, et donc je vous montre maintenant la simulation dans laquelle j'espère ne pas avoir fait de faute, mis à part le centrage. Voilà, bon. Donc ça ressemble à tout à l'heure, parce que là en fait je suis en train de montrer le gaz, mais en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait il y a un petit peu du blanc par-ci par-là, alors je vais enlever le gaz, hop, voilà. Si j'enlève le gaz, il ne reste que ça, donc là ce que je suis en train de représenter, c'est la luminosité des étoiles que j'ai formées dans ma simulation. Et qui, bon, si j'ai rajouté le gaz, vous vous rendriez compte qu'en fait, les endroits où il y a beaucoup de gaz, c'est aussi l'endroit où il y a des étoiles qui se forment. Et donc, la même chose que tout à l'heure se reproduit, c'est-à-dire qu'on voit que les petites galaxies, d'abord, on commence avec une myriade de petites galaxies qui fusionnent entre elles, qui continuent à croître, qui mangent du gaz, qui forment des étoiles, qui ont tendance à fusionner entre elles. Et tout à l'heure, je vous avais montré une jolie fusion entre un gros objet et un autre derrière qui va arriver là. Donc ça, ce que ça nous montre, bah, je suis content. Voilà, je voulais vous dire comment former une galaxie. Je vais dire que ma présentation est terminée. Malheureusement, évidemment, bon, c'est pas la fin de l'histoire. Alors la chose qui est positive, c'est que bon, si on regarde le gaz, donc ça c'est une vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure, où donc je regardais le gaz à la dernière sortie de ma simulation, je peux faire pareil avec les étoiles. Donc vous vous rendez compte que les étoiles sont un petit peu plus compactes en fait. Elles s'étendent sur une distance qui est moins importante. Les couleurs ici sont un petit peu mauvaises parce que j'ai été pris par le temps, donc j'ai pas eu le temps de mettre des bonnes couleurs. Mais par exemple, si on compare à la galaxie du Moulinet que je vous avais montré en introduction, qui est en bas à droite, je sais pas si vous voyez ceux qui sont au fond, on se rend compte quand même qu'on a reproduit avec ce modèle qui est finalement assez simple, le fait qu'on a des petits bras spiraux, le fait qu'on a un cœur qui est un petit peu plus rouge et un petit peu plus condensé que le reste, bon là ça se voit pas trop sur le vidéoprojecteur, et le fait qu'on a tendance à avoir des extrémités qui sont plutôt un petit peu bleues. Et les extrémités bleues, c'est typiquement parce qu'on a des étoiles jeunes qui sont en cours de formation. Et les étoiles jeunes, elles ont tendance à être plus bleues que les étoiles anciennes. Donc dit autrement, avec mon modèle la prochaine slide, je vais vous dire qu'il est faux, mais avec ce modèle qui paraît pas si mal, on arrive déjà à reproduire une certaine diversité, on arrive à reproduire la morphologie de certaines galaxies, par exemple. Mais évidemment, bon, on a un petit problème. Et le problème principal, c'est qu'il manque de la masse. Et en fait, il en manque vraiment beaucoup, parce que jusqu'à présent, je vous ai parlé d'étoiles, de gaz et de gravitation, mais bon, il manque un gros stuc, comme on dit en Alsace, un gros bout. Et ça, c'est quelque chose qui nous vient, qui a été mis en exergue dans les années 60 par Vera Rubin, qui est qu'en fait, si on a, dans les simulations ou dans les modèles qu'ils avaient à l'époque, ils avaient des galaxies comme celles qui sont à gauche, dans lesquelles, en fait, ce qu'on constate, c'est que les étoiles qui sont sur les bords de la galaxie ne tournent pas très très rapidement. En fait, si on compare ça aux observations, ce qu'on se rend compte, c'est que dans les observations, en fait, les étoiles qui sont sur le bord, elles tournent quasiment à la même vitesse que les étoiles qui sont au centre. Ça ne veut pas dire qu'elles font un tour dans le même temps, parce qu'elles ont plus de chemin à parcourir, mais elles parcourent à la même vitesse. Et ça, ce que ça nous suggère, c'est qu'en fait, il manque de la masse. C'est-à-dire que la masse qu'on voit, bah, c'est qu'une fraction de la masse qui est effectivement là et qui permet de faire tourner les étoiles. De la même manière, par exemple, il y a le télescope Euclid qui, il y a quelques mois, a fait une magnifique observation de ce qu'on appelle une lentille gravitationnelle. La masse des galaxies est tellement importante que potentiellement elle peut courber l'espace-temps, et donc on peut les défléchir des rayons lumineux. Ici, ce qu'on voit en fait sur cette image, c'est une galaxie en avant-plan au centre, et derrière on a quatre images d'une galaxie qui est en arrière-plan, qui a juste été lentillée. Donc c'est comme si vous regardiez au travers d'un verre, dans le fond d'un verre où ça fait des déformations, mais où là le verre en fait c'est une galaxie, et ce que vous voyez au travers du verre c'est une autre galaxie en arrière-plan. Et ça, c'est pas mal, parce qu'en fait, à quel point vous défléchissez la lumière, ça va dépendre directement de la masse totale de l'objet, pas simplement de la masse qui est observable. Alors, en fait, si on fait ça, on se rend compte que la masse qu'il faut pour expliquer cette lentille, bah, c'est exactement la même masse que ce qui manquait pour expliquer la courbe de rotation. Et de la même manière, si on compte, par exemple, la quantité de galaxies massives dans l'univers, on se rend compte que si on n'a pas cette petite masse, cette grosse masse en fait, qu'on a rajoutée pour expliquer les lentilles gravitationnelles et la courbe de rotation, bah, il nous manque des galaxies massives qui n'ont pas le temps de se former dans l'histoire de l'univers. La solution à ce problème qui a été développée au cours des décennies, c'est la matière noire. Et donc en fait, la matière noire, c'est une manière d'aller résoudre un certain nombre de problèmes. Je vous en montrerai trois, en fait, il y en a beaucoup plus que ça. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller rajouter la matière noire dans les simulations. Et combien de matière noire ? En fait, quand on fait des mesures, on se rend compte qu'il y a 80% de la masse de matière dans l'univers qui est en fait de la matière noire. Le gaz et les étoiles, ça représente 20%. Les étoiles, en fait, sont converties de manière insignifiante. C'est 1% de la masse totale de l'univers, c'est des étoiles. Le reste, c'est du gaz. Et la grande majorité, c'est de la matière noire. Je dis autrement, mes simulations jusqu'à présent étaient toutes pourries, parce qu'il manque 80% de la masse. Mais c'est pas grave, on peut la rajouter. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est que du coup, maintenant, ça me fait un nouveau schéma révisé pour former des galaxies. Il faut de la gravitation, de l'hydrodynamique, de la cosmologie, de la formation d'étoiles et de la matière noire. Donc, vous connaissez le truc, allons-y. Donc, on va rajouter de la matière noire. Alors, ce qui est pas mal, c'est que la matière noire, en fait, elle interagit que via la gravitation. Donc, je vous ai déjà expliqué comment faisait la gravitation. Donc, vous savez déjà faire de la matière noire, vous êtes grand. Ça interagit évidemment aussi avec les étoiles et avec le gaz, mais qu'au travers de la gravitation. Donc, finalement, c'est assez facile. Ce que je vous propose, c'est la même simulation que tout à l'heure. Donc, ça va de nouveau sauter, évidemment. Où je représente cette fois-ci la densité de matière noire. Et en fait, ce que vous constatez, c'est déjà, ça, avec le gaz, vous avez des beaux filaments bien, bien nets. Là, tout est un petit peu plus diffus. Ouais, en fait, c'est un peu logique, parce que la matière noire, elle ne peut pas interagir avec elle-même. Donc du coup, là où, avec du gaz, si vous avez deux bouts de gaz qui se rentrent dedans, ils se rentrent dedans, la matière noire, elle passe littéralement au travers d'elle-même. Donc en fait, il n'y a rien pour la rendre un petit peu plus compacte. On pourrait attendre longtemps, on pourrait attendre 13 milliards d'années. Je vais aller un peu vite, parce que c'est joli comme vidéo, mais... et en fait, ce qu'on peut faire, c'est aller comparer, par exemple, notre galaxie qu'on avait au centre de notre simulation à ce qu'on voit avec la matière noire. Donc là, ce que vous pourrez constater, c'est qu'avec la matière noire, vous ne voyez pas grand-chose, ça a l'air un petit peu diffus, ça a l'air surtout assez isotrope, alors que la galaxie qui est au centre, déjà, elle est beaucoup plus compacte, elle est beaucoup plus petite, elle est beaucoup moins étendue, et surtout, elle est très anisotrope. Et ça, c'est pas mal, parce qu'en fait, ça résout le problème qu'on avait initialement, qui est la courbe de rotation, on a besoin d'avoir quelque chose qui est plus diffus, qui est étendu sur une plus longue distance pour rajouter de la masse. Par nature, juste le fait de rajouter une particule qui ne va pas interagir avec elle-même autrement que par la gravitation, ça résout ce problème. Ça résout ce problème dans ma simulation, mais en fait, ça résout le problème dans tous les cas qu'on a pu regarder avec suffisamment d'attention jusqu'à présent. Très bien. Donc là, on est heureux, on a réussi à former des galaxies, elles tournent à la bonne vitesse, il y en a à peu près la bonne quantité, puis elles ont tendance à faire du lentillage gravitationnel comme il faut, comme des grandes. Et donc on a une recette pour former des bonnes galaxies. Pas tout à fait. Alors en fait, si on fait une simulation, donc là ce que je vous ai présenté, c'était les simulations extrêmement haute résolution d'une seule galaxie. Bon, ce qu'on peut faire, c'est des simulations un petit peu plus basse résolution, mais de centaines de milliers de galaxies. Et en fait, ce qu'on constate en faisant ça, par exemple, Yuan Dubois, qui était mon directeur de thèse, a fait ça avec une simulation qui s'appelle Horizon AGN. Et ce qu'on constate, c'est qu'on forme des galaxies petites et grandes, avec une certaine diversité, mais vous constatez probablement qu'elles sont toutes un petit peu bleutées. Et je vous avais montré au début cette galaxie un petit peu, sur laquelle j'avais été un petit peu négatif, qui était juste une espèce de blob jaunâtre, diffus, et qui avait l'air sphérique. Et ben, on n'arrive pas à les reproduire, celle-là. Elles manquent dans nos simulations. Et le truc, c'est que si on compare aux observations qui sont là, on a tendance à avoir beaucoup moins de galaxies bleutées, on a tendance à avoir aussi beaucoup moins de galaxies qui ont une belle structure de spirale. Ce que ça nous dit, c'est qu'en fait, dans nos simulations, il semble manquer un élément, qui a tendance à mener à la création de ce que j'appelle des éléphants bleus, parce que c'est des galaxies extrêmement massives qui ont tendance à être bleues, et en fait, les éléphants bleus, ça n'existe pas, comme vous le savez. Sauf que dans nos simulations, ça sort. Donc du coup, c'est qu'il manque un truc dans nos simulations. On a des petits tardigrades, on a des toutes petites galaxies, ça c'est bon. Mais par contre, les galaxies massives, bah, manifestement, les supernovas qui explosent, elles n'arrivent pas à exploser suffisamment fort pour enlever la masse. Et donc on a besoin d'un autre mécanisme pour aller virer du gaz et pour empêcher la formation d'étoiles. Et surtout pour empêcher, je vous avais dit tout à l'heure que les jeunes étoiles, elles avaient tendance à être bleues. Si on a des galaxies qui sont bleutées, c'est qu'elles sont encore en train de former des étoiles. Donc il faut qu'on trouve un moyen de virer la masse, mais surtout de l'empêcher de jamais retomber. Et une manière de faire ça, c'est les trous noirs. Les trous noirs supermassifs. Si on prend une galaxie, comme par exemple la galaxie d'Andromède, c'est quelque chose qui fait à peu près 10 000 années-lumière de rayon, voire même un petit peu plus. Si on zoome sur le centre, on peut faire des mesures. Donc là en l'occurrence, c'est des étoiles autour du centre de notre Voie lactée. C'est un time-lapse sur quelques dizaines d'années. Et en fait, ce qu'on observe, chaque point là, c'est une étoile au centre, sur, pour le coup, quelques centaines d'heures-lumière. Donc c'est une région relativement petite au centre de la Voie lactée. Et ce qu'on observe particulièrement intéressant, c'est cette étoile-là. Alors si vous regardez, en fait, elle est en train de faire un bel orbite, une belle ellipse. Mais par contre, elle tourne autour de rien. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est que comme vous avez l'orbite, vous pouvez reconstituer quelle est la masse du truc autour duquel cette étoile tourne. Et si vous faites ça, vous vous rendez compte qu'il y a un objet de quelques millions de fois la masse du Soleil qui est au centre, mais qu'on ne voit pas. Bon, ça tombe bien, c'est un trou noir, donc c'est normal qu'on ne le voit pas. Mais en fait, si vous prenez un télescope extrêmement, extrêmement puissant, comme ça a été fait il y a un an ou deux, je ne sais plus exactement, avec le Event Horizon Telescope, ce que vous pouvez faire, c'est une image extrêmement, extrêmement précise de... Bah, du point justement qui est au centre où vous doutez qu'il y a un objet, mais vous n'arrivez pas à voir avec un télescope standard. Si vous faites ça, vous avez cette image, vous avez peut-être déjà vu, parce qu'elle avait fait quand même le tour des médias, elle n'est pas très impressionnante, mais en fait ce qu'il faut se représenter, c'est que là ce que vous voyez, c'est du gaz chauffé à des millions, voire des milliards de degrés, qui est en train de tourner à la vitesse de la lumière autour d'un objet qui fait des millions de fois la masse du Soleil. Moi je trouve ça plutôt cool. Et ça, c'est des observations qui ont quelques années. Donc ça nous dit en fait qu'au centre des galaxies, on a un objet supermassif qui est en train d'avoir de la matière qui tombe dessus. Et quand c'est la matière qui tombe dessus, la matière elle va être chauffée, elle va émettre de la lumière, mais surtout elle va être expulsée. Et en pratique, donc pas fort heureusement pour nous, dans la Voie lactée, bah, il semblerait que le trou noir ne soit pas très actif. Il y a des galaxies dans lesquelles le trou noir est actif, on appelle ça les noyaux actifs de galaxies, et qui ont tendance à faire ce genre de choses. Donc là, ce qu'on observe, c'est une galaxie. En fait, quand on regarde dans le domaine des radios, ce qu'on voit, c'est qu'on a deux jets bipolaires de part et d'autre de la galaxie qui sont en train de pousser de la matière à la vitesse de la lumière. Donc en gros, vous avez une espèce de fontaine galactique qui va être capable de prendre du gaz qui est au centre sur des échelles qui sont de l'ordre de la taille du système solaire et d'aller pousser ce truc à des centaines de milliers d'années lumière. Donc en gros, vous avez un moyen de prendre du gaz au centre, là où il y a le plus de gaz, et de le balancer super, super loin à la vitesse extrêmement rapide, et du coup, il ne retombera jamais. Et donc ça, c'est génial, parce qu'en fait, ce que ça nous permet, c'est d'avoir un mécanisme pour aller enlever le gaz dans les galaxies qui sont massives, dans lesquelles on pense qu'il y a un trou noir supermassif, et d'aller le jeter très loin pour qu'il arrête de nous embêter, qu'il arrête de former des étoiles, et que du coup, on enlève tous ces éléphants bleus qu'on avait simulés. Alors, j'ai pas de vidéo à vous montrer dans lequel il y a un petit glitch, parce que bah, moi, dans mes simulations, j'ai pas de trous noirs, j'ai pas ces trous noirs. En revanche, il y a des simulations dans lesquelles ils ont ça, bah, du coup, ils ont moins de résolution. Elles sont pas aussi bien que les miennes, mais... Et du coup, en fait, si on fait ça, en fait, ce que ça nous suggère, c'est de prendre toujours notre petit nuage, toujours une observation, évidemment, le convertir en trou noir, un peu de la même manière que les étoiles. Et puis ce trou noir, il va avaler la matière qui passe autour, et ce faisant, il va éjecter une partie. Donc il grossit un petit peu au cours du temps, mais surtout, il éjecte une partie de la matière. Et si on fait ça, qu'on met ça dans une simulation, déjà, ça nous donne un nouveau modèle dans lequel on propose que la formation des galaxies, c'est gravitation, hydrodynamique, cosmologie, formation d'étoiles, matière noire et trou noir supermassif. Il faut un peu respirer pour dire tout ça d'un coup, et encore la liste n'est pas complète. Et si on met ça dans les simulations, on observe ce genre de choses. Donc là, c'est une simulation qui s'appelle Illustris, qui a une petite dizaine d'années. On a à gauche une image simulée des étoiles dans cette simulation. Donc en gros, là, c'est chaque petit blob, ce serait une petite galaxie. Et on a à droite le gaz, avec la présence d'un noyau actif de galaxie. Est-ce que vous regardez, si vous continuez à regarder à droite, ce que vous voyez, c'est que de temps en temps, bah juste le gaz, il se fait complètement expulser. Vraiment, on a vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui passe l'aspirateur qui l'enlève. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il est expulsé tellement vite qu'il sort de l'image. Et donc, plutôt que d'avoir plein de gaz, comme je vous avais montré tout à l'heure, on avait un beau disque de gaz, en fait, là, on se retrouve avec cette galaxie, en l'occurrence, dans laquelle il n'y a quasiment pas de gaz. Et qui dit pas de gaz, dit pas d'étoiles, et qui dit pas d'étoiles, dit pas de bleu, et dit pas d'éléphant bleu notamment. Et donc ça, c'est top, parce que c'est-à-dire qu'on a un peu résolu notre problème, qui est que d'une part, il nous faut un mécanisme pour aller éjecter du gaz dans les petites galaxies, et il nous faut aussi un mécanisme pour aller éjecter du gaz dans les grandes galaxies. Et donc pour les petites galaxies, on a les étoiles qui vont exploser, qui vont repousser le gaz, et dans les grandes galaxies, on a les trous noirs supermassifs qui vont accréter la matière et l'expulser. Donc avec tout ça, essentiellement, on a ce qui est aujourd'hui un petit peu le modèle standard de la formation des galaxies, qui est constitué du coup de la gravitation, qui nous permet de comprendre comment les objets vont se déplacer les uns autour des autres, l'hydrodynamique qui nous dit comment le gaz va se déplacer, sous l'effet de la gravitation, mais aussi sous l'effet juste de ses chocs entre lui-même, la cosmologie qui va nous donner les conditions initiales et puis comment notre boîte elle va évoluer au cours du temps, qui nous donne donc du coup un contexte à comparer au vrai univers. Ensuite, une fois qu'on a notre gaz qui s'est un peu refroidi, qui a formé ce beau disque que je vous montrais tout à l'heure, on va pouvoir commencer à faire des étoiles à partir de ce gaz. Ces étoiles explosent, ce faisant, elles vont repousser le gaz, donc en fait, il va y avoir une régulation de la formation des étoiles, et du coup, de la formation des galaxies. Pour que tout tourne à la bonne vitesse et qu'on ait les bonnes masses, il nous faut aussi de la matière noire, il nous en faut même beaucoup. Et enfin, pour qu'on ait des grosses galaxies, pour éviter d'avoir des éléphants bleus, des galaxies très massives qui sont bleutées, et il nous faut aussi des trous noirs supermassifs au centre de nos galaxies. Et donc si on met tout ça ensemble, ça nous forme du coup, le modèle standard de la formation des galaxies. Donc s'il y a des gens qui regardent dans 20 ans, il y a encore plein de trucs à mettre là-dedans. Évidemment, je connais la réponse. Et en l'occurrence, en fait, il manque plein de trucs. Il y a plein de problèmes. Il y a le fait que, par exemple, la taille des galaxies qu'on observe dans nos simulations, en fait, ce n'est pas exactement la bonne. Dans le modèle que je vous ai présenté, là c'est des images simulées du modèle que moi j'utilise. On a des galaxies qui sont un peu trop compactes, elles sont trop petites. Il y a un autre modèle qui est celui, le dernier que je vous ai montré, où il y avait les gaz qui se faisaient exploser, qui lui, pour le coup, il a le problème inverse, c'est que les galaxies qu'elles forment, elles sont un peu trop grandes. Et l'univers, il est un peu au milieu, et on ne sait pas trop pourquoi. On ne sait pas trop pourquoi moi j'ai tort et pourquoi eux aussi ils ont tort. Et bon, ça veut dire qu'il nous manque probablement des mécanismes. On a aussi le problème que, je vous ai parlé de trous noirs supermassifs, mais c'est super difficile de former un trou noir supermassif. Déjà, on ne sait pas d'où ils viennent. On ne comprend pas très bien comment ils acquièrent de la matière, on ne comprend pas très bien comment ils expulsent de la matière. Et comme c'est les échelles qui sont impliquées, c'est des années-lumière, c'est même moins que des années-lumière, c'est la taille d'un système solaire. C'est évidemment beaucoup, 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 beaucoup plus petit que les éléments de résolution dans la simulation. Donc ça, on ne sait pas encore très bien comment traiter correctement les trous noirs supermassifs. Et du coup, on a tendance à faire des modèles qui sont un petit peu ad hoc, qui reproduisent par exemple les observations, mais du coup, on n'a pas grand-chose sur la physique. Et si on met un modèle physique, du coup, ça ne marche plus par rapport aux observations. On ne sait aussi pas comment se forment les toutes premières étoiles. La toute première génération d'étoiles, en fait, c'est un peu compliqué de refroidir du gaz dans lequel il n'y aurait pas eu d'éléments un peu lourds. On a aussi des galaxies qu'on observe qui se forment trop vite par rapport à nos modèles. C'est-à-dire qu'il y a des galaxies notamment observées par le James Webb Space Telescope qui sont trop massives. Et en fait, dans nos simulations, ces galaxies, elles se forment juste pas. On ne sait pas d'où elles sortent. Donc, c'est-à-dire qu'il nous manque des objets dans nos simulations, on ne sait pas comment ils se forment. Puis on ne sait pas non plus quelle est l'origine de la composition chimique des éléments dans les galaxies. Par exemple, moi, dans mes simulations, je suis la quantité de carbone, d'azote et d'oxygène, par exemple, mais les valeurs que j'obtiens, ce n'est pas exactement les bonnes par rapport à ce qu'on observe. Et je ne sais pas pourquoi. On ne sait aussi pas quel est l'effet de la poussière, parce qu'on a de la poussière qui sort dans la galaxie, quel est l'effet des rayons cosmiques, qui sont des particules de haute énergie qui se font éjecter et dont Kumiko parlera probablement dans un mois. Donc elle serait beaucoup mieux calée. Venez dans un mois pour avoir la réponse à ce dernier point. Peut-être que je viendrai aussi pour apprendre des choses. Et en fait, on a tout un tas de problèmes qui font que j'ai été recruté pour y répondre. Donc peut-être que dans 10 ans, je referai une présentation et puis je repasserai sur cette liste et puis je vous dirai les trucs qu'on a résolus. Mais en attendant, je vais m'arrêter là et puis je vais prendre des questions.
Merci beaucoup. Ça marche au micro ? Ça marche. Merci beaucoup, Corentin, pour cette conférence. C'était vraiment très bien. Tu as bien montré comment en science, on fait des allers-retours entre la théorie, les simulations d'un côté et puis les observations, comment les deux domaines s'alimentent l'un l'autre et puis... C'est ce qu'on fait dans ce domaine-là, dans tous les domaines en astrophysique, puis dans tous les domaines en sciences, globalement. Quoi. C'est comme ça que la connaissance traverse le monde. Bien sûr, je n'ai pas beaucoup de questions sur le chat. Moi, j'en aurais, mais y en a-t-il dans la salle, alors ? Une question, je vous en prie.
Bonjour, merci. Je ne connais pas grand-chose, je suis venu parce que je suis très curieux. Vous dites que les trous noirs éjectent de la matière. Je croyais que c'était en fait tellement massif que quand même, on pouvait en sortir.
Ouais. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que quand on a un trou noir, il y a un peu une file d'attente pour rentrer dedans. C'est un peu, vous imaginez que c'est un concert. Une fois que vous rentrez dans le concert, vous ne pouvez plus jamais ressortir. Par contre, il y a la queue devant. Et dans la queue, dans les concerts, souvent, il y a un peu des gens qui se bousculent, ça chauffe. C'est un peu pareil en fait sur le trou noir. Vous avez un disque d'accrétion autour du trou noir, et en fait, ce disque d'accrétion, il y a beaucoup de frottements. Et ce faisant, en fait, vous allez libérer énormément d'énergie. Et du coup, il y a une partie de la matière et une partie des gens qui étaient dans la queue qui se retrouvent expulsés en fait parce que juste ils supportent pas la température. Par contre, les gens qui rentrent dans le trou noir, le gaz qui rentre dans le trou noir, il ne ressortira jamais. Et donc ça, c'est le mécanisme qui fait. Donc en fait, on a quelque chose qui paraît a priori un petit peu contradictoire, qui est que le trou noir il croît en absorbant de la matière, mais ce faisant, il rejette une partie de la matière. Et du coup, en fait, d'une part, le gaz il se retrouve en partie accrété par le trou noir et en partie éjecté. Et la partie qui est éjectée, elle va empêcher bah, du coup, le gaz qui arrive après d'être accrété. Et la partie qui est à l'intérieur va rendre juste le trou noir plus efficace. Et du coup, on a un peu un phénomène qui s'amplifie. Plus le trou noir accrète, plus il est efficace. Et plus il est efficace, plus il empêche. Du coup, il se régule lui-même. Parce que bah, s'il empêche le gaz qui arrive de retomber sur lui-même, il ne peut plus croître. Qui est d'ailleurs le cœur du problème de comment on fait croître des trous noirs, c'est que quand un trou noir mange, il expulse la matière, et comme il expulse, bah, en fait, il expulse son propre manger, et donc une fois qu'il a cru, il ne croit plus. Et donc en fait, on a le problème que nos trous noirs, ils croissent, puis après, ils n'ont plus rien à manger, parce qu'ils ont tout éjecté, puis après, ils recroissent un petit peu, et du coup, ils ne vont pas assez vite.
Je vous remercie. J'aurais peut-être une deuxième question, s'il vous plaît. Dans les simulations que vous avez montrées, j'avais l'impression que sur les bords des galaxies, tout se passait très très vite et toute la matière se dirigeait très très vite vers le centre de la galaxie, alors que vers le centre, j'avais l'impression que ça allait beaucoup moins vite, alors que le rayon est quand même beaucoup plus faible. Comment ça se fait ? Parce que on aurait plutôt tendance à imaginer l'inverse, que sur les bordures extérieures, ça aille lentement, et vers l'intérieur, ça aille un peu plus vite.
Ouais, alors le premier effet, c'est qu'en fait, la matière qui est en train de tomber sur la galaxie, je vous ai montré en fait des images où on a de la matière qui tombe, on appelle ça de l'accrétion cosmologique. Donc c'est vraiment, vous imaginez que vous êtes en chute libre en tant que petit proton. Vous êtes en chute libre, pas pendant une minute, deux minutes, vous êtes en chute libre pendant des milliards d'années. Et donc évidemment, quand vous arrivez sur la galaxie, vous arrivez à toute vitesse. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, la matière qui est en train de tomber sur la galaxie, notamment si je reviens au début, en fait, la matière qui est en train de tomber, par exemple, que vous voyez là, elle tombe à des vitesses colossales, de centaines de kilomètres par seconde. Mais quand elle arrive sur la galaxie, bah, y a déjà du monde à l'intérieur, donc généralement on a un choc qui va se former, qui va ralentir le gaz, et du coup le gaz il va évoluer un petit peu plus lentement, donc de l'ordre de je sais pas, une cinquantaine, peut-être une centaine de kilomètres par seconde, donc c'est un petit peu moins, jusqu'à former des étoiles. Ou jusqu'à se faire expulser, auquel cas il se retrouve expulsé à la vitesse de la lumière. Donc là pour le coup, il est parti. Ouais.
Enfin, petit y a-t-il une autre question dans la salle ? Oui.
Bonjour, alors simplement, on n'a pas parlé de l'énergie noire, est-ce que ça existe encore ? Et puis.
Oui, non, allez-y, je vous écoute.
Et puis deuxième question, je voulais juste évoquer l'antimatière. Est-ce que c'est encore quelque chose dont on parle ? Et est-ce que ça pourrait être simulé également de façon mathématique ?
Alors déjà, je pourrais répondre pour l'énergie noire. Du coup, donc l'énergie noire dans les simulations, la manière dont nous on le traite, enfin dont moi je le traite dans mes simulations à moi, c'est que c'est juste un terme qui va faire croître la taille de la boîte. Et du coup, en fait, à quel point elle croît vite, ça dépend du contenu en énergie noire. Mais il n'y a pas besoin de le traiter explicitement en fait dans la simulation. Le seul effet que ça va avoir, c'est juste de faire augmenter la taille de la boîte. Par contre, ce qu'est l'énergie noire. J'ai aucune idée de ce que c'est. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut se targuer d'avoir un modèle qui tient la route de ce que c'est. Je sais que, par exemple, des gens qui font des calculs, s'il y a des gens qui pensent que c'est les fluctuations quantiques du vide, et ce faisant, on obtient un nombre qui est faux de, je crois, 50 ordres de grandeur. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas non plus si... donc moi, dans mes modèles, par exemple, l'énergie noire, elle a tendance à faire entraîner une croissance exponentielle de la taille de l'univers. Et par exemple, il y a eu des résultats la semaine dernière qui tendent à indiquer que le taux de croissance, il évolue aussi lui-même avec le temps. Donc, c'est-à-dire que bah, l'énergie noire, elle ne serait pas aussi simple que ce que moi j'ai dans mes modèles. Par contre, ça nous dit comment elle se comporte, mais ça ne nous dit pas ce que c'est. Et par rapport à l'antimatière, j'ai pas de raison de rajouter de l'antimatière dans mes simulations parce que je ne saurais pas d'où elle vient. Mais après, de la manière pratique, généralement, quand on a des termes qu'on sait pas trop. Si on a besoin d'ajouter un terme, on le rajoute. Et typiquement, l'antimatière, quand elle va rentrer dans la matière, ça va produire de l'énergie. Donc, typiquement, c'est, par exemple, ça pourrait être une source d'injection d'énergie. Mais sauf que j'ai pas de raison de rajouter de l'antimatière dans la simulation. Du coup, j'en ai pas. Parce que c'est déjà un peu compliqué comme ça.
Merci. D'autres questions dans la salle? Oui.
Là, au fond.
Bonjour, je voulais savoir quel était le facteur limitant de toutes vos simulations. Est-ce que vous êtes parti déjà de rien et vous utilisez des modèles existants, par exemple pour l'hydrodynamique, basés sur des calculs de météo, par exemple? Est-ce que la limitation, c'est le raffinement des modèles, ou est-ce que vous avez quand même la limitation des puissances de calculateurs? Vous avez évoqué des simulations qui duraient des mois.
Oui, du coup, la réponse est oui, oui et oui, je crois. Je n'ai pas tout à fait suivi. Donc je l'ai pas mis parce que bon, j'ai un peu pris par le temps, mais par exemple j'ai utilisé un code de simulation qui s'appelle Ramsès, qui a été développé initialement au CEA, au Commissariat à l'énergie atomique, dont le début date des années 2000. Donc ça veut dire que ça fait 20 ans qu'on travaille sur ce code. Alors, je dis on, c'est un on global, c'est la communauté. Donc, moi j'ai apporté quelques petits éléments, j'ai fait tourner mes propres simulations, j'ai fait des améliorations, mais enfin, je veux dire, c'est des centaines de milliers de lignes de code qui ont été écrites par des dizaines et des dizaines de chercheurs. Donc, c'est pas un travail qu'on fait de manière individuelle. Moi, ce qui me limite dans mes simulations, c'est le fait que ça prend un temps de calcul absolument faramineux. Donc j'ai mentionné plusieurs mois, en fait, les simulations qu'il y a là en arrière-plan, en fait, cette simulation, la raison pour laquelle elle s'arrête pas aujourd'hui, mais elle s'arrête quelques milliards d'années dans le passé, c'est parce que j'ai plus de temps de calcul, j'ai déjà consommé tout le temps de calcul que j'avais, donc je serais très content si vous en avez, d'ailleurs je suis preneur. Mon projet de recherche sur lequel j'ai été recruté, c'est justement d'aller améliorer ces simulations pour qu'elles soient plus performantes. Ce serait toute une autre discussion, mais il y a encore beaucoup de travail, il y a beaucoup de pain sur la planche si on veut faire des simulations avec plus de résolution.
Merci. J'ai une question sur le chat, là, qui est un petit peu sur les détails de tes simulations. Est-ce que tu peux en dire plus sur les algorithmes d'intégration en temps qui sont utilisés dans les simulations? Est-ce que les pas de temps sont adaptatifs? Est-ce que tu peux donner quelques éléments compréhensibles par des gens qui ne font pas ce type de simulation?
Oui, bien sûr. Je vais revenir au tout début avec mon analogie avec la météorologie. L'idée, c'est que quand on va par exemple avoir davantage de résolution dans un endroit qui nous intéresse, c'est typiquement là où on a notre galaxie, en fait, on va mettre le paquet sur la résolution, par contre dans les bords, on s'en fout un petit peu. Du coup, ce qu'on a aussi un petit peu envie de faire, c'est les endroits où on a du gaz qui se déplace rapidement, on va vouloir évoluer le tout sur un petit pas de temps. Par contre, les endroits où le gaz se déplace lentement, où notre cellule elle est immense, on va prendre un gros pas de temps, on fait les choses pas très proprement, mais pour vraiment gagner du temps de calcul. Et donc l'idée des pas de temps adaptatifs, c'est que à chaque fois que je vais faire, à chaque fois que je vais évoluer ce qui se passe dans une petite cellule, j'évolue deux fois une petite cellule pour chaque fois que j'évolue une grande cellule. Et ça, on a tout un tas de petites astuces qu'on sort de nos chapeaux pour gagner du temps. Le fait d'avoir un pas de temps adaptatif, c'est l'une d'entre elles. Donc, ça nous permet, à chaque fois qu'on va doubler la résolution, on diminue le pas de temps d'un facteur 2, et du coup, en fait, on peut faire un million d'itérations sur notre galaxie, puis de temps en temps on fait une petite itération loin, puis après on recommence un million de fois la galaxie, puis après on fait de temps en temps loin. Et ça nous permet de concentrer les efforts de calcul sur la région qui nous intéresse vraiment. Et après au niveau des algorithmes, c'est un peu une question. Je vais avoir du mal à répondre de manière succincte, parce que on a un très grand nombre de phénomènes, mais typiquement on fait juste des schémas d'intégration de l'air, c'est-à-dire que vraiment juste on. On a notre vitesse nous permet de mettre à jour la position. Une fois qu'on a la position, on peut recalculer les forces, du coup on peut remettre à jour la vitesse et on fait comme ça des allers-retours entre ces trois points. Et après pour l'hydrodynamique, il y a un livre de 600 pages qui s'appelle Riemann Solvers for Hydrodynamics, sur lequel est basé les méthodes. Si ça intéresse la personne qui a posé la question, on pourra en discuter plus longuement. Mais...
Merci. Alors est-ce qu'il y a encore une ou deux questions dans la salle? Vous en aviez une, oui?
Oui, est-ce que vous pourriez nous parler des quasars et quel est le rôle exactement des quasars dans la vie des galaxies?
Du coup, les quasars, c'est un autre nom des noyaux actifs de galaxies. Où est-ce qu'ils sont mes petits AGN? Ouais, les quasars, en fait, c'est des objets extrêmement qui historiquement ont été découverts extrêmement distants, extrêmement lumineux. Et en fait, ce qu'on est en train de voir, c'est bah, quand on a la matière qui va tomber, on a une manière d'expulser de la matière qui est de la balancer dans le léger. Une autre manière de le faire, c'est juste de, c'est de chauffer à quelques milliards de degrés la matière. Et ce faisant, du coup, on va, bah, en fait, on allume un énorme phare, enfin, on fait un magnifique feu grégeois au centre d'une galaxie. Et ça, ça se voit à des milliards et des milliards et des milliards d'années-lumière. Du coup, les quasars, en fait, c'est une autre facette du disque d'accrétion autour des noyaux actifs de galaxies. Et en fait, c'est, si on regarde de près, enfin, si on était capable de regarder de près, ce qu'on ne peut pas faire, on s'attendrait à avoir en fait un disque d'accrétion, donc de la matière qui est en train de tourner quasiment à la vitesse de la lumière autour d'un trou noir supermassif au centre du galaxie. Et selon l'angle dans lequel on regarde et selon combien de matière il est en train d'ingérer, soit il expulse de la matière dans le léger, soit il chauffe la matière avoisinante. Et dans un cas, on va avoir des bougies radio comme ça, ou alors on va avoir des objets qui ressemblent juste à une ampoule très, très brillante parce qu'on a juste de la matière extrêmement chaude. Mais c'est plusieurs, disons, c'est deux faces de la même pièce, on va dire. Enfin, sauf que la pièce, elle a plus que deux faces. Mais, bon.
Est-ce que ça veut dire que toutes les galaxies ont été ou sont des quasars ?
Alors, bah, du coup le quasar, c'est vraiment l'objet qui est au centre. Mais on pense que toutes les galaxies abritent un trou noir supermassif. Il se trouve que si le trou noir il n'est pas en train d'accréter de la matière, on ne le voit pas, parce qu'il ne se passe rien. Donc toutes les galaxies, on pense, ont un trou noir supermassif. Bon, il reste encore à le démontrer. Mais par contre, toutes les galaxies qui ont un trou noir supermassif ne sont pas en train d'accréter la matière activement dessus. Donc du coup, et c'est pas complètement évident non plus qu'il y a potentiellement des galaxies où le trou noir supermassif n'a jamais été très actif, typiquement les petites galaxies, parce que les petites galaxies ont tendance à avoir un trou noir supermassif, mais moins supermassif que les grosses. Et du coup, les trous noirs moins supermassifs, ils ont tendance à être moins actifs eux-mêmes.
Merci. Reste-t-il une question dans la salle ? Non, oui, allez, une toute dernière.
Concernant le débat de 1920, 25, je ne sais plus, pourquoi il observait, du coup, tu n'as pas dit finalement, il avait tort sur l'explication, mais du coup, en quoi ce qu'il observait, est-ce que juste son collègue avait mal fait la photo
de
la galaxie ?
Je suis content que tu poses la question. Alors, le premier point, donc le fait qu'il y ait une rotation observée de la nébuleuse du Moulinet, en fait, il semblerait, alors c'est pas complètement évident, parce qu'en fait, il me semble que c'est Hubble qui a refait les mesures avec les mêmes observations, et qui, en refaisant les mêmes mesures, s'est rendu compte qu'il y avait des erreurs méthodologiques dans la manière dont Van Manen avait fait les mesures. Donc, en fait, il s'est un peu gouré. Donc, en fait, c'est une mauvaise mesure. Mais bon, ce qui n'est pas complètement évident, c'est peut-être aussi un petit peu teinté de biais de confirmation, j'imagine qu'il a peut-être envie de faire tourner les galaxies, je ne sais pas, j'étais pas là, pas tout à fait né. Pour l'histoire de la nova, en fait, c'est parce qu'ils sont gourés, en fait, c'était pas une nova, c'était une supernova. Et en fait, une supernova, quand ça explose, ça a la même luminosité qu'une galaxie. Et à l'époque, ils trouvaient ça complètement absurde, et 100 ans plus tard, on se dit, bah évidemment, c'est une supernova, enfin, moi, ce que je me dis. À l'époque, c'était pas évident qu'une étoile puisse éjecter autant de matière d'un seul coup, et surtout que qu'une galaxie puisse être moins brillante qu'une supernova parmi celles-là. Il faut quand même se rendre compte que la Voie lactée est 100 milliards d'étoiles. Quand il y a une supernova qui explose, pendant le temps où elle explose, la supernova est plus brillante que toute la Voie lactée. Donc vu de loin, ça paraît un peu absurde. On se dit comment un objet individuel pourrait être aussi brillant. Et en fait, c'est ce qui se passe. Mais pour ça, il a fallu s'entendre physique quand même.
Ouais, moi, je complète cette question. Alors, sur la suivante, le coup des galaxies qui vont très vite, on avait la vitesse des galaxies. Ouais. Tu as dit que ce n'était pas possible qu'elles soient dans la galaxie. Donc ça, d'une certaine manière, ça répondait à la question. Ce n'était pas considéré comme un point très fort à l'époque ?
Alors, je vais un peu botter en touche, parce qu'en fait, ils n'ont pas gardé de traces du débat. Donc en fait, le grand débat, on sait qu'il a eu lieu, mais il n'y a pas de manuscrit de quels ont les... Parce que c'est aussi ce que je me suis dit. Je me suis dit, c'est quand même un peu évident.
Officiellement, on dit qu'on l'a trouvé il y a 100 ans. Justement, on a fait une conférence en décembre dernier, une publique et puis une conférence à l'IAP pour... Pas qu'on a mesuré la distance, mais en fait, rien qu'avec la vitesse, on avait la réponse.
Après, si je me fais un peu l'avocat du diable, on peut imaginer qu'on a un processus qui va créer des nébuleuses qui traversent et après qui disparaissent. Et juste si... C'est un peu farfelu, c'est un peu tordu, mais j'avoue que je ne sais pas quel est exactement le raisonnement physique qu'il y a derrière, parce que j'ai l'impression que pour moi, c'est aussi un argument qui suffit à dire que du coup, les galaxies sont des objets lointains et massifs et pas des objets qui sont dans le voisinage de la Voie lactée.
Il faudra demander à des historiens des sciences, Chapelet, j'imagine qu'il avait compris ça quand même. C'est un grand astrophysicien.
Ah oui, non, c'est un grand. Il a perdu ce débat, mais il a une belle carrière quand même, donc ça va. vous en faites pas.
Bon, bah, je propose qu'on arrête là-dessus. Je vous rappelle qu'on se retrouve le mois prochain pour la conférence de notre collègue Kumiko Kotera sur la, intitulée L'univers violent, là, autour du livre qu'elle vient de sortir. Donc, bah, l'IAP vous remercie de nous avoir, d'être venu ici nous écouter, de nous avoir suivis sur YouTube. Et puis, merci à toi, Corentin. Voilà, merci, bonsoir.